France Inter. Le 18-20, Alexandra Bensaï.
18h13 sur France Inter. La parole est à vous, auditrice, auditeur. Connaissez-vous, redoutez-vous des problèmes d'argent? Vous êtes peut-être cette petite entreprise de transport qui doit cesser toute activité, ou alors vous êtes cet étudiant qui a besoin de son petit boulot pour payer son loyer. Depuis une semaine, la pandémie, le confinement sont venus chambouler votre équilibre financier. Alors quelles sont les aides auxquelles vous avez droit? Que pouvez-vous dire aussi à votre banquier et surtout, que vous répondra-t-il? On en parle ensemble ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et nous avons Nicole qui nous appelle d'Anduze. Bonsoir Nicole.
Oui, bonsoir.
Nicole, vous êtes artisan céramiste.
Oui, exactement, oui.
Et vous avez une interrogation.
Oui, je suis donc artisan céramiste et je suis auto-entrepreneur. Je donne des cours de céramique et de mosaïque et j'ai arrêté toute mon activité depuis une semaine. Et je me demande si, avec ce statut, je peux bénéficier d'aide.
On va poser la question. Merci Nicole pour votre question. Je vais la renvoyer à nos invités. Ce soir, nous sommes avec la secrétaire d'État à l'économie. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher.
Bonsoir.
Vous vous occupez justement, plus particulièrement, des artisans, des commerçants et des industriels. Avec nous, et je le remercie également, le directeur général du Crédit Mutuel, Daniel Ball. Bonsoir à vous.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, merci. Et vous représentez-vous à la fois des fédérations du Crédit Mutuel et du CIC. Donc si je résume, vos clients, ce sont des particuliers, bien sûr. Mais il y a aussi de nombreux artisans, des TPE, des PME. La question de Nicole, donc elle est artisan céramiste, elle donnait des cours, elle a dû arrêter. Elle est une micro-entreprise. Agnès Pannier-Runacher, je me tourne vers vous. À quoi a-t-elle droit, Nicole?
Alors, la première chose auquel elle a droit, c'est le report des échéances sociales et fiscales. Donc, c'est tout ce qu'elle paye au titre de l'URSSAF et son impôt, si cette activité est son activité principale. Elle pourra ensuite se retourner vers le fonds de solidarité, qui est un fonds qui a été mis en place pour les très petites entreprises, dès lors qu'elle remplit certains critères, c'est-à-dire des critères de chiffre d'affaires, des critères de perte de chiffre d'affaires en lien avec le coronavirus. Ce fonds va être mis en place dans les tout prochains jours. Il est monté très vite et il fait l'objet d'une discussion au Parlement en ce moment. Et à partir de fin mars, on pourra se connecter sur son site des impôts pour pouvoir faire valoir sa demande. Et l'objectif est de payer début avril avec une première tranche, donc pour les entreprises qui ne sont pas micro-entrepreneurs, 1 500 euros. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, on regardera en fonction du chiffre d'affaires, puisque l'objectif n'est pas que ça dépasse le chiffre d'affaires perdu.
Est-ce que ça compte, Nicole? Est-ce que vous êtes toujours avec nous en ligne?
Oui, je suis toujours avec vous, oui. Mais alors, j'ai quand même une question par rapport au chiffre d'affaires. Quand vous dites, je peux faire la demande de ce fonds de solidarité, moi j'ai un chiffre d'affaires faible, donc est-ce que ça me touche, quoi? Est-ce que je peux en bénéficier?
Et ma question, c'est aussi peut-être, Nicole, on va le rajouter, est-ce que vous avez arrêté votre activité parce que vous y êtes contrainte? Est-ce que c'est une décision de votre part? Est-ce que vous n'aviez plus personne qui venait à vos cours?
Ah ben non, j'y étais contrainte puisque je ne pouvais plus recevoir de public.
Voilà. Agnès Pannier-Runacher, on apporte un complément à Nicole qui a une question sur son chiffre d'affaires.
Justement, l'aide de 1 500 euros, elle est souvent supérieure au chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs. Mais dans ce cas-là, la référence, ce sera le chiffre d'affaires que l'on connaît dans l'entreprise.
Daniel Ball, vous à la banque, est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises qui se tournent vers vous en ce moment?
Oui, alors d'abord préciser, je suis le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est-à-dire 13 des 18 fédérations, et je suis également le directeur général de la principale filiale, qui est le CIC. Bien évidemment que beaucoup d'entreprises, beaucoup de professionnels, beaucoup de grandes, petites entreprises se sont retournées vers nous, mais on a anticipé, et pour une grande partie, une très grande majorité des entreprises, nous leur avons proposé dès cette semaine, et pendant un délai de 6 mois, de reporter leurs échéances. De reporter leurs échéances mensuelles pour les prêts qu'ils ont en cours chez nous, de telle sorte justement à leur permettre de passer cette période.
Et avec ensuite, des pénalités, Daniel Ball, avec
non,
des
non,
pénalités
entendu, aucune pénalité, et bien entendu pas de commission pour la rédaction d'un avenant éventuel. Non, évidemment, il n'en est pas question. Et ensuite, nous verrons pour consolider cette situation, et il y aura diverses hypothèses que nous pourrons retenir, dont celles qui seront mises en place avec le soutien de l'État, avec des prêts que nous mettrons à disposition, notamment des crédits de trésorerie qui pourront ensuite durer un an avec garantie soit de la BPI, soit directement de l'État. Le dispositif que l'État va apporter va être tout à fait complémentaire et va vraiment permettre de soutenir complètement l'ensemble des entreprises et par conséquent de soutenir également l'emploi dans cette période très difficile.
Ce que j'entends à travers vos réponses à tous les deux, c'est qu'il y a en effet d'un côté, par exemple, les URSSAF, on doit se tourner vers son URSSAF pour demander des reports. Il y a ces prêts qu'on va aller demander à sa banque. Est-ce que quand on est une entreprise et qu'on est pris sous le flot, est-ce qu'il y a un guichet unique, Agnès Pannier-Runacher ?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, s'agissant des URSSAF, pour l'échéance du 20 mars, elle ne va pas être prélevée pour les travailleurs indépendants. Donc ça dépend des statuts. Mais cette échéance-là ne sera pas prélevée et elle sera automatiquement lissée pour le moment sur les échéances ultérieures d'avril à décembre. Et évidemment, on adaptera en fonction de la manière dont évoluera cet épisode puisque à ce stade, on ne peut pas prédire quand sera levé le confinement. La deuxième chose, c'est que vous avez sur le site du ministère de l'Économie et des Finances tout ce dont vous pouvez bénéficier avec les liens vers les administrations. Donc il y a juste à cliquer donc sur economie.gouv.fr coronavirus, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez tous les éléments et le document est fait de telle manière qu'il vous renvoie automatiquement sur les sites où vous pouvez faire vos formalités le plus souvent en ligne et vous avez en plus les numéros de téléphone et les mails des services qui vous répondent si vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir du conseil ou de prendre date.
Alors, pour les reports des cotisations, des URSSAF, on a souvent des auditeurs qui nous disent « c'est gentil le report, mais de toute façon, on sait qu'on devra payer et ça, on ne sait pas si on en sera capable ». Qu'a prévu le gouvernement pour leur répondre ?
Dans ces situations-là, c'est des choses qu'on connaît bien, parce qu'il y a tout un accompagnement des entreprises en difficulté qui est en place en France. Et ce que l'on fait, c'est qu'on regarde la situation de la trésorerie de l'entreprise et on discute d'un échéancier dans lequel on peut faire des dégrèvements des impôts ou revoir l'ensemble de l'échéancier et des choses qu'il faut payer. D'ailleurs, l'État peut abandonner des créances, mais d'autres participants, les banques en l'occurrence, peuvent aussi abandonner des intérêts, par exemple, qui seraient dus pour permettre à l'entreprise de revenir à une situation assainie qui lui permet de poursuivre son activité. Donc c'est quelque chose qui est assez courant. Pour le moment, ce que l'on fait, c'est que on pousse, puisqu'on n'a pas une visibilité exacte sur la manière dont les entreprises vont traverser cette crise. Et pour faire ces échéanciers, il faut avoir en tête l'ensemble de la situation. Ceci dit, si l'entreprise est vraiment face à un mur de trésorerie, entre guillemets, elle peut d'ores et déjà demander un dégrèvement fiscal au fisc. Et il ne faut pas hésiter à les saisir. Là encore, tous les renseignements sont sur le site du ministère de l'Économie. Alors, dernier point peut-être, oui, j'en profite.
Je vous en prie.
Il est également possible de demander la suspension de ces factures d'eau, de gaz et d'électricité. Et nous négocions avec les plus grands bailleurs de la place le fait d'obtenir des suspensions de loyers ou des reports de loyers.
Les plus grands bailleurs, vous voulez dire les centres commerciaux par exemple ?
Notamment les centres commerciaux, ils se sont d'ores et déjà engagés, mais nous négocions ainsi avec d'autres organismes qui travaillent dans l'immobilier et qui ont beaucoup de bails commerciaux. ça ne représente pas 100% des situations, parce que vous pouvez avoir des situations avec des personnes privées, et là, on rentre dans des difficultés, parce que ça peut mettre en difficulté l'autre. Lorsqu'on a des institutions solides, nous sommes en capacité de leur demander de repousser ça, et il ne faut pas hésiter à saisir la médiation du crédit lorsqu'on a des difficultés à parler avec sa banque et la médiation des entreprises pour toutes les difficultés qu'on peut avoir, soit avec d'autres entreprises, votre bailleur, celui qui vous donne votre contrat d'EDF, enfin votre contrat d'électricité, etc., soit avec l'État, puisque vous pouvez avoir un contrat avec l'État ou une autre collectivité publique, type un petit marché public.
Agnès Pannier-Runacher, alors vous disiez on n'a pas beaucoup de visibilité, mais justement, nous non plus, on aimerait bien savoir quelle est la partie de l'économie, quelle est la proportion de d'entreprises qui travaillent encore.
Alors, on sait que certains secteurs sont totalement à l'arrêt. D'abord, par construction, ceux dont on a interdit la réouverture et qui ne peuvent pas pratiquer leur activité en faisant des livraisons. Je prends un exemple tout simple, les coiffeurs. Par construction, c'est un métier où vous ne pouvez pas respecter la distance d'un mètre nécessaire pour faire les gestes barrières. Donc dans ces cas-là, l'activité est totalement à l'arrêt. Vous avez évidemment toutes les activités liées au tourisme, les voyagistes, l'événementiel, la culture, le sport, qui sont également totalement à l'arrêt. Et je veux dire que l'ensemble de ces dispositifs bénéficient aussi aux associations. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent en bénéficier, les associations de la même manière, l'association sportive qui se trouve prise à la gorge, qui ne sait pas très bien comment elle va gérer les abonnements de ses clients parce que pendant un mois, il n'y aura pas de sport. Est-ce qu'elle doit rembourser, etc.
Est-ce qu'on sait dire quelle est la proportion d'entreprises qui est de fait à l'arrêt?
Aller jusqu'au bout. Ensuite, dans le bâtiment, il y a eu un arrêt et les fédérations viennent de publier un communiqué de presse disant qu'elles vont redémarrer, mais elles vont redémarrer en s'assurant qu'à chaque fois qu'elles redémarrent, elles prennent les mesures de protection des salariés. Donc tout ne redémarrera pas parce que dans certains cas, ça sera pas possible ou ça sera pas approprié. Et dans l'industrie, c'est finalement l'endroit où c'est pas le plus difficile parce que vous avez des chaînes bien organisées, donc vous pouvez espacer les gens, prendre les mesures.
Enfin, dans l'industrie, il y a des entreprises comme Michelin, comme les entreprises
qui vont redémarrer,
Quand
qui vont redémarrer
dans les jours à venir.
Michelin, oui. Alors, celles qui n'ont pas de commande ne doivent pas redémarrer parce que ça ne sert à rien de produire pour produire, mais celles qui ont des commandes vont probablement redémarrer. C'est ce sur quoi on est en train de travailler avec elles, car il y a un point qui est indispensable, c'est qu'il faut assurer en fait la base vie de 67 millions de Français. Et cette base vie, elle exige qu'on continue à fabriquer des médicaments, fabriquer de la nourriture, la cheminée, etc. Et donc, on va la faire tourner. Et en fait, on nous dit, mais vous avez qu'à dire ce que sont les activités essentielles. C'est pas si simple, parce qu'on s'aperçoit que tout est interdépendant. On croit que quand on arrête les emballages, c'est pas essentiel. Et en fait, si, c'est essentiel, parce que ça permet de transporter les fameux la nourriture et les masques, par exemple. Donc, on préfère dire chacun redémarre en protégeant au maximum ses salariés en fonction de la réalité de ses carnets de commandes qui quelque part indique un besoin de l'économie et un besoin des Français, et on fait ça progressivement et on s'assure d'assurer l'approvisionnement des Français.
Daniel Ball, vous avez entendu, vous qui êtes le directeur général du Crédit Mutuel, vous avez entendu la secrétaire d'État à l'économie qui dit que les banques pourraient peut-être être elles aussi abandonner des intérêts qui leur seraient dus. Est-ce que c'est ça les appels que vous recevez en ce moment? Ils vous demandent quoi, les chefs d'entreprise?
Non. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment je vais faire pour pouvoir régler l'échéance. Et la réponse que nous donnons le plus largement, dans la grande majorité des cas, c'est, je vous l'ai dit, c'est de faire un report automatique des échéances. Lorsque c'est pas possible, dans certains cas de figure, en tout cas, on apporte une réponse dans les 5 jours pour apporter une solution. Lorsque le report d'échéance est fait, ensuite, on sera sur des situations qui nous permettront de prendre des mesures qui pourront avoir une incidence plutôt à long terme avec un échelonnement de la créance. Le vrai sujet aujourd'hui n'est pas celui simplement des intérêts, ce qui n'aurait pas été compris, et nous avons évidemment largement et immédiatement tranché là-dedans, c'est qu'il aurait pu y avoir des majorations pour retard, ça on ne l'applique pas. Il n'y aura pas non plus de frais pour toutes ces prorogations qui seront mises en œuvre. Il faut que nous soyons extrêmement fluides. Il faut aussi que nous soyons à l'écoute. Et c'est pour cette raison que nous maintenons l'ouverture de notre réseau, ce qui permet à chacun de nos clients d'avoir son interlocuteur qu'il connaît depuis longtemps, qui est là.
Ça veut dire que les agences sont ouvertes. Ça veut dire qu'on peut venir.
Oui, absolument. Elles sont ouvertes. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait le choix de maintenir effectivement le réseau ouvert en tant que tel, c'est-à-dire que les collaboratrices et collaborateurs sont présents, de telle sorte à apporter les réponses aux clients. Alors les réponses aux clients, aujourd'hui, on les apporte évidemment beaucoup plus au téléphone, voire en visioconférence, ou par échange de courrier électronique. D'ailleurs, pour les entreprises, c'est une situation extrêmement adaptée, de telle sorte à pouvoir assurer une totale continuité de l'activité. Et une partie de nos collaborateurs sont en télétravail, donc ce qui permet de continuer à avoir la relation clientèle sans qu'elle soit physique, parce que l'ensemble des règles et notamment de distanciation sociale que les pouvoirs publics mettent en avant, nous voulons évidemment les appliquer pour protéger nos collaboratrices et collaborateurs, mais également pour protéger nos clients et pour aller dans le sens de ce qui est attendu aujourd'hui de l'ensemble de la collectivité nationale.
Quelle proportion de vos collaborateurs, Daniel Ball, sont en télétravail ou ne peuvent pas être physiquement dans l'agence?
Alors là, si vous parlez du réseau d'agences, aujourd'hui on a à peu près 4000 agences entre le Crédit Mutuel et le CIC en France. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié des collaborateurs restent physiquement présents et une partie est tout simplement aussi arrêtée pour des sujets tout simplement comme la garde d'enfants ou des choses pareilles. Et on a à peu près un quart qui se trouve aujourd'hui en télétravail. Et nous avons au courant de la semaine fortement augmenté nos capacités de mettre nos collaborateurs en télétravail, que ce soit d'ailleurs dans les fonctions dans le réseau ou dans les fonctions support, dans les fonctions des centres de métier, de telle sorte à pouvoir assurer à la fois la continuité de l'activité, parce qu'on a un rôle essentiel à jouer, notamment pour soutenir l'ensemble de nos clients, mais également
on va en parler.
Pour protéger nos collaborateurs.
On a Maëlys au bout du fil. Bonsoir Maëlys.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue. Bienvenue
merci,
à vous.
Merci. Voilà, moi je voulais vous interpeller sur la situation des particuliers, parce qu'en fait, les particuliers, les salariés et les retraités vont avoir, pour ce qui concerne les salariés, c'est sûr, une baisse de revenus. Qu'en est-il des décisions prises par les banques de manière générale concernant les crédits? Par exemple, ma fille et mon gendre ont acheté une maison il y a 2 ans. Ils avaient tout à fait les conditions pour assurer leur crédit jusqu'à maintenant. Mon gendre est salarié, il va avoir une baisse de revenus, c'est à peu près certain. Qu'en est-il? Voilà. Est-ce que les banques ont pris des dispositions particulières pour reporter ces crédits? Et nous autres retraités, nous sommes inquiets par rapport au paiement de nos retraites et nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous avons un crédit parce que nous avons changé de véhicule il n'y a pas très longtemps. Est-ce que nous allons bénéficier aussi de report de ces crédits? Voilà. Je vous remercie pour vos réponses et je profite de l'antenne pour vous remercier tous journalistes et autres qui assurent le lien avec la population.
Merci Maëlys. Donc, question sur les crédits immobiliers, bien sûr. On
oui,
a des baisses de revenus.
Et autres.
Et les retraites. Alors les retraites, est-ce qu'on la pose à Agnès Pannier-Runacher, à Daniel Ball? Agnès Pannier-Runacher?
Il y a deux choses dans la question. Il y a ce qui relève du crédit, je laisserai Daniel Ball répondre, mais il n'y a aucune raison que les retraites baissent. Les retraites, c'est un droit, c'est comme toutes les prestations sociales, elles ne vont pas baisser. Les revenus des salariés qui continuent à travailler en télétravail, ils ne vont pas baisser. Ça, il n'y a aucune raison. Les seuls revenus qui baisseraient pour des salariés, c'est lorsqu'ils seraient à une rémunération supérieure au SMIC et que, par ailleurs, ils seraient mis en chômage partiel.
Dans ce cas-là, ils touchent 84% de leurs revenus nets,
c'est leur
ça
net.
Donc ils
de
perdent 16% de leur net.
Je rappelle que c'est 100% au niveau du SMIC. Donc je ne connais pas, évidemment, la situation particulière
De Maëlys
de Maëlys et surtout de son gendre et de sa fille, mais dans le cas présent, 14% sur, je prends large, 3 mois, ça veut dire que sur l'année, c'est une baisse de l'ordre de 5% du revenu de la personne qui serait en chômage partiel. C'est juste pour remettre les choses en perspective.
Et sur le crédit, les crédits contractés par la fille et le gendre de Maëlys, Daniel Ball, les crédits immobiliers.
Je vais bien entendu parler pour l'ensemble des banques. Hein. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Pour ce qui nous concerne et les messages que nous avons passés dès cette semaine à l'ensemble du réseau, et évidemment de faire une étude attentive de chaque situation lorsqu'un client a réellement une perte de revenus, ça ne devrait pas être le cas de la majorité des clients. Mais dans ce cas-là, lorsqu'il y a une perte de revenus, on regarde la situation et on peut utiliser des formules qui ressemblent à celles dont j'ai parlé tout à l'heure pour les professionnels et les entreprises. On peut très bien envisager dans un premier temps de ne pas appliquer de ne pas prélever aujourd'hui les échéances mensuelles de prêts et de les reporter pendant 6 mois, par exemple, le temps de sortir de cette phase.
J'imagine.
Nous voulons évidemment aussi être aux clients, au soutien de nos clients particuliers. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Tout le monde est dans une situation de crise aujourd'hui. Nous devons être à leur côté et plus encore dans ce contexte.
J'imagine qu'il va falloir quand même documenter les choses pour le banquier. Alors on va le voir avec quoi sous le coude.
Il va falloir le documenter. Je veux dire, quand on a une relation de confiance comme on l'a très largement avec l'ensemble de nos clients, puisque nous avons un chargé de clientèle affecté à chaque client, on le connaît. Lorsque le client vient nous voir et nous explique pour quelles raisons aujourd'hui il a une perte de revenus, on arrivera à le comprendre et à partir de là on mettra en œuvre le dossier pour permettre de trouver un aménagement de son crédit. On a même dans notre gamme de produits de prêts immobiliers un certain nombre de prêts qui peuvent automatiquement se moduler, c'est prévu dans le contrat.
Oui, ça dépend des contrats.
Voilà, lorsque c'est prévu dans le contrat, c'est automatique jusqu'à hauteur de un tiers de l'échéance, ce qui est quand même pas mal. Et lorsque ce n'est pas dans le contrat, on est là pour trouver la solution. Et je peux vous dire que nos chargés de clientèle sont d'ores et déjà.
Vous avez envoyé le message. OK.
Ajoutez à cela que les décisions sont prises dans 95% des cas au sein même de l'agence, ce qui permet d'apporter des réponses rapides. Et ça aussi, c'est très sécurisant.
Alors, il va falloir apporter encore des réponses à Véronique qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Véronique.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais me faire confirmer que la condition sine qua non pour obtenir le fonds de solidarité pour les auto-entrepreneurs et commerçants de 1 500 euros était une baisse de chiffre d'affaires de 70% en comparant le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Et je voulais comprendre ces 70% parce que d'emblée, on serait amené à penser qu'un mois, c'est 2 fois 50% et que le chiffre d'affaires n'est pas réparti en 30% sur la première quinzaine et 70% sur la deuxième quinzaine.
Véronique, qu'est-ce que vous faites, vous, comme activité?
Moi, je suis micro-entreprise, donc je suis client depuis le 16, je ne sais plus, enfin depuis la semaine dernière, donc c'est une moitié de mois. Si je compare avec le mois de mars de l'année dernière, forcément, je ne justifie pas de 70%, puisque une quinzaine, c'est 50%.
Merci de votre question. Je la renvoie à la secrétaire d'État à l'économie, bien sûr, Agnès Pannier-Runacher.
Alors, deux choses. La première chose, c'est que lorsque vous avez dû fermer suite aux arrêtés des 14 et 15 mars, vous bénéficiez du dispositif de fonds de solidarité. D'accord ? Parce que on vous a demandé de fermer et on sait que ça entraîne une baisse de chiffre d'affaires massive. Ça, c'est pour, je dirais, tout l'ensemble des commerçants et artisans qui ont été amenés à fermer. Les 70%, ils concernent les entreprises d'événementiel, les entreprises du tourisme, toutes les entreprises qui sont en fait touchées déjà depuis plus d'un mois. Et c'est pour ça qu'on prend ces 70% parce que pour eux, l'appréciation se fait bien sur un mois de manière comparable.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Agnès Pannier-Runacher, c'est que quand même cette dame qui en effet obéit à l'arrêté du 15 ou 16 mars, de toute façon ne peut pas prétendre à ce filet de sécurité.
Non, je viens de vous dire exactement le contraire.
Alors allez-y.
Je viens de vous dire qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui relèvent de l'arrêté, qui ont dû arrêter, qui bénéficieront du fonds de solidarité. Et qu'en plus de cela, ceux qui par ailleurs non pas d'arrêter les interdisants de travailler, l'événementiel, rien ne vous empêche de travailler, sauf que vous n'avez pas de contrat aujourd'hui.
Donc Véronique,
et vous n'en avez pas parce que vous avez perdu du chiffre d'affaires et vous l'avez perdu depuis le début du mois de mars. Donc c'est pour ça que cette période est logique par rapport en termes de comparaison de chiffre d'affaires. Vous avez deux catégories de bénéficiaires du fonds de solidarité.
D'accord. Donc Véronique, même si elle n'a pas 70%, et c'est ce qu'elle nous a expliqué, de voilà, perte de chiffre d'affaires.
Si elle a dû fermer parce que l'arrêté disait votre boutique qui vend telle et telle chose doit fermer, alors elle peut demander à bénéficier de l'arrêté.
Agnès Pannier-Runacher, on a aussi tout un nombre de cas d'entreprises qui, elles, ne sont pas concernées par l'arrêté, là je pense peut-être aux opticiens, aux magasins de bricolage, mais qui décident de fermer quand même par mesure de prévention ou parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas protéger leurs salariés. Ces entreprises-là, est-ce qu'elles ont droit à une aide ?
Alors, il faut regarder très précisément parce qu'il faut avoir en tête que les commerçants que nous avons arrêtés que nous avons autorisés à ouvrir font des activités qui sont que nous considérons comme très importantes pour le bon fonctionnement de notre pays. Donc et nous avons travaillé avec un certain nombre de situations, de métiers pour définir la façon dont on pouvait protéger les salariés qui venaient travailler. Donc là, je pense qu'il faut être effectivement, on travaille, hein, on comprend qu'il y a un moment de sidération de l'ensemble des entreprises et que certains ont préféré fermer ou ralentir l'activité le temps de prendre la mesure de la situation. Mais lorsqu'on peut ouvrir, je pense aux opticiens, je pense à l'alimentation, même les magasins de bricolage, ça a l'air de rien, mais c'est eux qui fournissent beaucoup de toutes petites entreprises qui sont des artisans, qui peuvent continuer à travailler, qui surtout peuvent rendre des services aux Français, qui sont tous confinés. Donc,
ils doivent ouvrir et ils n'auront pas d'aide s'ils décident tout seuls de ne pas ouvrir, c'est bien ça.
En tout cas, il faudra justifier de pourquoi ils n'ont pas pu exercer leur activité. Si c'est quelqu'un qui a, par exemple, une situation, je dirais, de maladie chronique et que, pour des raisons de santé, évidemment, c'était pas possible, on sera à l'écoute.
Karine est avec nous. Merci, Karine, d'appeler le téléphone sonne.
Bonsoir.
Alors, dites-nous ce qui vous amène.
Bonsoir. Alors, voilà, déjà, je voulais vous remercier pour vos émissions en ce moment parce qu'elles sont vraiment utiles à la population française là pour rester en lien. Et je voulais savoir donc s'il y avait une éventualité pour les étudiants rentrer chez leurs parents et qui continuent à payer leurs charges et leurs loyers, donc d'avoir une aide, je ne sais pas. Parce qu'en fait là c'est un peu plus de la moitié de leur bourse qui passe pour payer les charges et les loyers.
Vous êtes dans cette situation là,
oui, votre... oui, mon fils il paye encore son loyer là et il est rentré à la maison donc parce que les universités ont fermé.
Et donc là c'est un loyer que votre fils paye à un organisme ou à une personne privée?
À une personne privée. Une personne privée.
On va poser la question à Agnès Pannier-Runacher. Merci, Karine.
Et la deuxième question, excusez-moi. Je voulais savoir, vous savez, les gens aux minima sociaux, ils risquent d'avoir du mal à subvenir à leurs besoins vitaux, parce qu'en ce moment, dans les magasins, l'augmentation, elle est continue au niveau des produits de première nécessité. Et ils ont les enfants qui sont plus à la cantine, donc qui sont à la maison. Et là, je me demande vraiment si c'est judicieux d'augmenter les produits dans les magasins avec une crise aussi. On ne sait pas ce qui est devant nous, là, hein, quand même.
On ne sait pas ce qui est devant nous.
Je me demande, les gens vraiment dans les HLM, qui sont aux minima sociaux, au RSA ou à la AAH, je pense qu'ils doivent souffrir plus que le reste de la population.
C'est un virus qui révèle aussi les inégalités. En effet, on ne vit pas tous la pandémie de la même façon. Agnès Pannier-Runacher, il y a deux choses vraiment très intéressantes dans cette question qui vous revient une fois encore. À Bercy, j'imagine que vous suivez, vous regardez les prix. Et donc, cette dame nous parle d'une hausse des prix qu'elle voit, elle, sur les produits de première nécessité. Et la deuxième question, c'est donc son fils qui est rentré chez elle et qui doit continuer quand même de payer son loyer ou pas à son bailleur privé. Et cette dame, visiblement, a un petit budget.
J'entends, mais là, pour le coup, on n'a pas de dispositif pour une dépense dont je comprends très bien qu'elle doit continuer à avoir lieu alors que votre l'étudiant n'occupe pas la chambre, ou j'en sais rien. Mais en tout état de cause, elle était prévue dans le budget et il ne paye pas un loyer supplémentaire parce qu'il est rentré chez ses parents. Donc dans cette situation, effectivement, il n'y a pas d'aide qui est prévue. Le deuxième élément, c'est en revanche, il y a tous les filets sociaux qui existent, puisque nous sommes dans un pays, Madame mentionnait les minima sociaux, nous sommes dans un pays où il y a un certain nombre de filets sociaux qui, pour des personnes qui seraient, qui verraient leur situation dégradée, automatiquement s'activeraient pour leur permettre, pour amortir la situation. Sur les prix, de manière générale, bien sûr, on suit les prix. Vous avez pu voir que, par exemple, sur les gels hydroalcooliques, il y a eu une petite tentation d'envoler que nous avons immédiatement arrêtée par un décret fixant des prix plafonds. La Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, dans ce moment particulier, suit deux choses. Les prix d'une manière, de manière générale, c'est-à-dire toutes...
Est-ce que vous voyez, parce qu'on va essayer de faire des réponses peut-être plus courtes,
on
a beaucoup d'appels.
Très court. Ouais, on ne voit pas d'augmentation générale des prix. Pour vous répondre très concrètement, on voit sur des produits spécifiques, on veille à ça, et on voit par contre beaucoup de fraudes et de gens qui vendent des choses qui sont inutiles au regard du coronavirus, et là, il faut être très vigilant. Sur toutes les solutions miracles qui sont proposées.
Daniel Ball, je me tourne vers vous parce qu'il y a aussi des entreprises, et vous l'avez mentionné, hein, qui viennent vous voir et qui attendent des crédits pour, parce que par exemple, il va bien falloir, on a une baisse d'activité, mais il va bien falloir quand même faire l'avance de ces salaires là à la fin du mois, même s'il y a du chômage partiel. Est-ce que une entreprise qui n'a pas d'activité, qui doit payer des salaires, d'habitude la banque, elle aurait tendance à pas prêter, et là, est-ce qu'elle va prêter? Et combien?
Bien sûr, elle va pas prêter systématiquement. Je crois qu'il y a deux choses, hein, et je crois que le président de la République l'a bien dit, il faut pas qu'une entreprise structurellement en bonne santé ne soit en faillite à cause de cette crise. Donc les entreprises qui aujourd'hui ont une vraie impasse de trésorerie parce que tout simplement elles n'ont pas eu aujourd'hui les revenus, et que dans une période qui en plus va durer, nous devons effectivement prendre en compte cette situation et nous mettrons en place, après avoir étudié le dossier bien entendu, des crédits de trésorerie de
jusqu'à
telle sorte
combien
à perte face. Le montant sera fonction tout simplement d'abord du chiffre d'affaires de l'entreprise, des besoins qu'il y aura aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas de limite de montant en tant que tel. Ça s'étudiera dossier par dossier. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des perspectives. Aujourd'hui, on peut mettre en place dans un premier temps une simple autorisation de découvert, le temps de voir comment la crise évoluera, de telle sorte à consolider cela en sortie de crise et prévoir ensuite un remboursement échelonné de ce crédit de trésorerie. L'idée est effectivement de permettre de passer le cap, de permettre aux entreprises de continuer à fonctionner et puis ensuite de rebondir le plus positivement possible.
Et ce qu'il faut comprendre, je vais me tourner vers Agnès Pannier-Runacher, c'est que les banques sont incitées à prêter parce que si le crédit ne marche pas, si l'entreprise tombe, qui rembourse, Agnès Pannier-Runacher?
Si l'entreprise tombe, les créanciers ne sont pas remboursés, ou en tout cas sont remboursés sur ce qui reste de l'entreprise. Donc c'est perdant-perdant. C'est pour ça que les entreprises qui sont structurellement en bonne santé et qui sont confrontées à cette difficulté doivent être accompagnées de l'autre côté. C'est l'intérêt de tout le monde.
Il y a une garantie de l'État. On parle de la garantie de l'État.
Il y a une garantie de l'État, effectivement, à hauteur de 300 milliards. Il y a une garantie du crédit inter-entreprise très important pour le financement de l'économie à hauteur de 10 milliards au travers des assureurs crédits. Il y a une garantie des exports et il y a la garantie BPI à hauteur de 90%. Donc un gros dispositif.
C'est là
peut-être
où...
deux points complémentaires. Oui. S'il y a des problèmes de consommation, signal conso, faut pas hésiter à utiliser cette application qui permet de donner à la DGCCRF des signalements. Et deuxième chose, n'oublions pas que pour les salariés, il y a le dispositif de chômage partiel et donc l'entreprise, lorsqu'elle doit s'arrêter, elle ne paye plus les salaires de ses salariés.
Est-ce que c'est elle qui va faire l'avance des salaires et être remboursée plus tard ?
Ce qu'elle va faire, c'est effectivement, et il faut être vigilant sur la façon de payer à la fin du mois pour ceux qui auront l'autorisation de chômage partiel, l'avance du montant que les salariés recevront. Mmh. Donc c'est un calcul particulier, 100% du net au SMIC, 84% au-delà. Et elle recevra, mais vraiment quelques jours après, le paiement de la part de l'État.
Alors il nous reste quelques minutes. Marie se trouve en Corrèze. Elle est intermittente du spectacle. Bonsoir Marie.
Bonsoir. Oui, je me permets de vous appeler. Merci pour l'émission.
Vous voilà, êtes la bienvenue.
C'est gentil. Donc nous sommes des milliers dans mon cas et malheureusement ce cas n'est pas un cas généraliste. C'est-à-dire que nous avons tous en tant qu'intermittents des fonctions différentes, des programmes différents, des structures différentes. Et il y a des tas de choses qui circulent actuellement sur le net, partout, plein d'infos. Mais on ne sait réellement pas à quelle sauce on va être mangé, ce qui nous fait tous flipper. Et deuxièmement, on a très peur de l'après. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver, moi je suis musicienne de jazz, je fais des concerts à droite, à gauche, dans toute la France, on ne va pas retrouver demain des dates, quoi. Et donc ce qui est perdu, ok, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir continuer à être indemnisé, il nous faut 507 heures, on le sait à combien, peut-être ça va descendre, est-ce qu'on peut envisager une année blanche pour tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi.
Et la réponse, elle est à Bercy. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les intermittents du spectacle, Agnès Pannier-Runacher?
Alors, sur les intermittents du spectacle, c'est un régime qui est un peu particulier que je connais moins bien parce qu'il est géré plutôt du côté du ministère de la Culture. Je vais revenir au plan des principes pour pas vous dire de bêtises, mais les principes dans lesquels on agit, c'est point 1, on répond dans la crise à tout le monde de façon à ce qu'on laisse pas les gens au bord de la route. Aujourd'hui, le régime des intermittents du spectacle, à date, c'est-à-dire, comme l'exprime très bien madame, au bout d'un mois d'interruption, ça fonctionne. Ensuite, on regarde comment évolue la crise et on fait bouger les curseurs pour qu'évidemment, les gens ne se retrouvent pas pris dans une situation difficile. Donc ces curseurs, ils évolueront au fil du temps. Je vous donne
et qui informera exemple. Alors pour les qui informera Marie, c'est donc au ministère de la Culture que se trouvera la
c'est
réponse.
C'est le ministère de la Culture qui est pilote sur ce régime des intermittents du spectacle et en tout état de cause tous les éléments seront disponibles à cet endroit-là, mais à chaque fois, on prend les mesures. Par exemple, vous avez vu que nous avons repoussé la réforme du chômage à septembre parce que ses effets nous paraissaient délicats à appliquer dans les circonstances présentes. Les chômeurs en fin de droit vont également bénéficier d'un décalage. Donc, ce principe, il est appliqué de manière continue pour faire en sorte que des gens qui sont pris dans un étau pour lequel ils n'ont dans lequel ils n'ont aucune responsabilité, qui est une situation internationale auquel nous faisons tous face, oui, puissent s'en sortir et rebondir.
Alors, si vous êtes pris dans un étau, il y a une écoute et une vigilance, dit Agnès Pannier-Runacher. Pour le moment, c'est la réponse qu'on peut vous apporter. Marie, vous voulez réagir?
Ouais, c'est super gentil d'avoir répondu. Tout ce que je demande à Agnès, excusez-moi, je n'arrive pas à retenir ce nom de famille.
Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie.
Ok. Ce que j'aurais aimé lui dire, c'est surtout, faites attention, ne mettez pas tous les intermittents dans le même panier, ne faites pas un amalgame. Et il y a des gens qui allaient valider leur première année d'intermittence, auxquels il allait manquer peut-être 5-7 dates pour être pour la première fois de leur vie intermittent. Et il ne faut pas pénaliser ces gens. Ça va être très compliqué pour nous, on le sait, on est solidaires, on est, voilà, s'il faut aller jouer dans la rue, on jouera dans la rue, s'il faut jouer au balcon, on jouera au balcon. Moi j'ai de la chance, je suis à la campagne. Mais ne faites surtout pas un amalgame entre les théâtres, les comédiens, les techniciens, on est vraiment à part. S'il vous plaît, Agnès, s'il vous plaît. En tout cas, merci, je vous souhaite bon courage à tous.
Merci à vous, Daniel Ball. Qu'est-ce qu'on peut apporter des clients, évidemment, tels que Marie, précaires, avec qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme réponse? Que sont prêtes à apporter les banques comme réponse?
Je pense que les banques sont pleinement mobilisées dans cette crise. Et lorsque leurs clients vont venir les voir, elles vont parfaitement comprendre la situation. Aujourd'hui, les revenus ne rentrent pas parce qu'on est dans une situation de crise. On espère que cela démarrera et que nous pourrons, à un moment ou à un autre, à nouveau avoir des revenus. Et donc, à nous de les accompagner.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut supprimer les agios? Est-ce qu'on peut augmenter le plafond du découvert? C'est ça, les outils du banquier?
C'est plutôt ça. C'est plutôt les outils dont vous parlez, augmenter le découvert, mettre en place aujourd'hui un crédit personnel.
Je parlais des agios pourra... aussi. Hein.
Oui, ben les agios, vous savez, on a la chance, cette crise arrive au moins à un moment où les taux sont extrêmement bas. Donc généralement, dans une échéance aujourd'hui, le capital est bien plus important que les taux. Donc diminuer encore les taux, je crois que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, c'est pas la question. Le vrai sujet, c'est comment nous allons accompagner, et là, nous sommes mobilisés. Je crois que cette crise est quand même très très particulière. On a connu d'autres crises, notamment la crise financière 2008-2009. À ce moment-là, les banques étaient quelque part une partie du problème. J'ai vraiment confiance pour que dans cette crise, les banques soient une partie de la solution à la sortie de crise.
Alors, c'est une belle punchline. Eh ben, j'imagine que les Français prendront les banques au mot, Daniel Ball.
Oui, mais certainement, les banques sont là pour accompagner. Je peux vous dire que chez nous, au Crédit Mutuel et CIC, la relation de confiance que nous avons avec nos clients, nous voulons continuer à l'avoir encore plus lorsqu'ils sont en difficulté. C'est notre raison d'être depuis toujours.
Le directeur général du Crédit Mutuel, merci d'avoir été... Dans le téléphone sonne ce soir, et merci à vous, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie.
Je vais dire à notre musicienne que je ferai passer le message au ministre de la Culture sur les intermittents, c'est-à-dire un, faire attention, et deux, surtout, bien faire la différence entre les différents métiers qui ne sont pas confrontés aux mêmes situations.
Bah écoutez, c'est à ça que sert le téléphone sonne. Merci à vous et merci pour Marie. Évidemment, la situation est grave, nous sommes tous préoccupés, mais nous savons bien que nous passerons mieux cette épreuve si nous sommes bien entourés. Et sur France Inter, il y a des grandes voix d'artistes qui nous accompagnent au quotidien depuis des années et qui sont encore avec nous pour ces moments exceptionnellement difficiles. Est-ce que ça vous ferait plaisir de passer un coup de bigophone à Julien Clerc ? Bah oui, il est là avec nous. Bonsoir Julien Clerc.
Bonsoir.
La question qu'on pose tous au téléphone, alors ça c'est d'habitude, mais en ce moment on la pose encore plus particulièrement, c'est est-ce que ça va bien et où êtes-vous ?
J'allais vous demander la même chose, est-ce que vous allez bien ?
Eh ben écoutez, nous ça va, là en studio vous savez, on est deux en fait, et il y a un mètre de distance entre nous, et les micros ont été désinfectés, figurez-vous.
Bon.
C'est pas souvent, hein, mais là depuis le début, ça, c'est beaucoup. Et vous alors, dites-nous.
Moi, ça va, écoutez, jusqu'à nouvel ordre, on pourrait dire. Ça va.
Ça va.
Et voilà, je suis en famille dans le Poitou, voilà, et nous sommes confinés en famille. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir mon piano avec moi. Et je continue de faire de la musique, de lire beaucoup.
Est-ce que vous trouvez... Est-ce que vous trouvez le temps long, ou est-ce que au contraire vous goûtez le temps ?
J'essaie de goûter le temps avec une impression de d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais ça, c'est ce que nous ressentons tous. Et avec une admiration forcenée pour les gens qui continuent d'être en première ligne dans tous les métiers, qui permettent aux gens confinés, malgré tout, de vivre, certes angoissés, mais de vivre. C'est-à-dire, pour tout, évidemment, comme toujours, les admirables personnels soignants, les gens des métiers médicaux, mais aussi les gens qui permettent à la population de manger, qui sont les commerçants, qui sont ouverts. Voilà, donc je pense à eux tous les matins, en vérité, en me réveillant, en me disant qu'il y a quand même des gens admirables dans des moments graves comme ça.
Et vous parliez, Julien Clerc, d'épée de Damoclès. Comment, vous qui faites de la musique, qui lisez, comment est-ce qu'on peut l'oublier ? On l'a tous, hein, cette épée de Damoclès, ce sentiment.
Oui.
C'est anxiogène. Hein. Comment, quels seraient vos conseils, ou qu'est-ce qui marche pour vous ?
Moi, j'ai la chance d'être dans un métier de musique. Et la musique est une chose qui permet de s'évader, comme vous le savez. Donc, soit j'écoute de la musique, mais j'en fais aussi. D'abord, je continue de travailler, puisque avant que tout ça n'arrive, j'étais en pleine écriture d'un album, qui, je l'espère, sortira l'année prochaine.
Ah ben, on l'espère.
Mais donc, je peux continuer de travailler, quoique l'angoisse quand même vous coupe un peu les ailes, mais j'ai apporté des bien qu'assez mauvais lecteurs de musique, mais quand je me mets à mon piano, j'ai apporté des partitions de trucs que j'aime et je m'amuse à les déchiffrer. Vous savez, j'ai eu la chance de vivre toute ma vie en inventant des petites mélodies, en posant mes doigts sur un clavier et en refusant obstinément la connaissance approfondie de la musique. Bon, j'ai eu une bonne oreille, ce qui a été ma chance. Mais là, je m'amuse maintenant à déchiffrer des trucs écrits par les autres, comme ça, ça me fait progresser un petit peu dans la connaissance.
Donc, c'est le travail, finalement. Hein, c'est un peu le travail contre l'angoisse ? L'effort,
ah,
c'est ça ?
Certainement, oui. Et puis aussi, bon, j'ai vraisemblablement que les sorties, je pensais à ça cet après-midi, les boîtes de nuit me manquent moins qu'à d'autres. Bon, donc je peux quand même, grâce à la musique et à la lecture et au film, si
alors
vous
dites-nous
voulez,
dites-nous un livre, conseillez-nous des bouquins là, on en a besoin.
Bah écoutez, je vais le faire, parce que j'avais pensé à ça avant de vous parler. Alors, comme on a tous du temps devant nous, j'ai pensé à deux trilogies, en fait.
Vous y allez fort.
Hein? Oui, mais vous allez voir, c'est tellement facile à dire, tellement agréable. Il y en a une qui est écrite par un Français, qui est Pierre Lemaitre, que tout le monde connaît. Donc, c'est la trilogie qui commence par Au revoir là-haut, puis ensuite Couleur de l'incendie. Et le dernier qui est sorti récemment, qui s'appelle Miroir de nos peines, d'ailleurs, qui parle d'une situation un peu semblable, c'est-à-dire comme ça, qui était l'exode, où tout d'un coup, la vie des gens se trouvait explosée en morceaux, et tout le monde partait. Au contraire d'aujourd'hui, tout le monde est confiné. Mais à l'époque, tout le monde partait sur les routes, on ne savait pas où. Donc ça, cette trilogie de Pierre Lemaitre.
Et la seconde?
Alors la seconde, c'est pour les gens qui aiment les polars un peu, c'est Philippe Kerr, qui s'appelle la trilogie berlinoise,
oui.
dont le héros est un inspecteur allemand là à Berlin, avant, pendant et juste après la dernière guerre mondiale. C'est formidable aussi ça.
Alors Pierre Lemaitre et Philippe Kerr, bah écoutez, on va se les mettre voilà. Dans notre musette. Merci Julien Clerc de nous avoir passé ce coup de fil. Portez-vous bien. Portez-vous bien.
Surtout vous aussi, merci infiniment.
On va tâcher. Le téléphone sonne, va continuer de sonner, auditeurs, auditrices, dans la deuxième heure, 19h20, 20h. Nous allons faire le bilan de ces premiers jours de confinement, mais tout de suite, 19h sur France Inter.